Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mercredi 12 juin 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici le titre. Au Burundi, le président élu Évariste Ndayishimiye sera investi le plus tôt possible selon la Cour constitutionnelle après la mort subite de Pierre Nkurunziza. Nouveau drame en Méditerranée, un naufrage au large de la Tunisie fait au moins 55 morts, en majorité des Africains. L'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé se dit alarmé par les menaces de mort contre les avocats du journaliste Samuel Ouazizi, décédé pendant sa détention. Ici aux États-Unis, la convention des républicains pour l'investiture du président Trump se tiendra finalement en Floride. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les choses s'accélèrent au Burundi après la mort du président Pierre Nkurunziza lundi. La Cour constitutionnelle a ordonné que le nouveau président, qui devait prendre fonction le 20 août, soit finalement investi le plus tôt possible. Nanit Talani.
La Cour constitutionnelle a conclu dans son arrêt que l'intérim n'est pas nécessaire et qu'il faut procéder le plus tôt possible à la prestation de serment du général Évariste Ndayishimiye. Élu à la présidentielle du 20 mai, M. Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août, à la fin du mandat de M. Nkurunziza, décédé subitement lundi. Selon la constitution de 2018, en cas de vacance de la présidence, l'intérim doit être assuré par le président de l'Assemblée nationale, poste actuellement occupé par Pascal Nyabenda. La Cour constitutionnelle, saisie hier par le gouvernement pour constater la vacance du pouvoir, a finalement décidé qu'il n'y a aucun intérêt à une période intérimaire. Elle a considéré que l'objet de l'intérim disparaît par le fait juridique de l'existence d'un nouveau président élu qui, selon la haute cour burundaise, doit prêter serment dès que possible.
Un ancien militaire gambien résidant dans l'ouest des États-Unis a été inculpé pour des actes de torture commis en 2006 dans son pays d'origine après une tentative de coup d'État manqué. Michael Sankorea, 41 ans, est accusé d'avoir torturé 6 personnes lorsqu'il faisait partie d'un groupe armé baptisé Junglers, composé de soldats de l'armée gambienne régulière, mais répondant directement au président de l'époque, Yahya Jammeh. Michael Correa est entré aux États-Unis en 2016 et réside à Denver, dans le Colorado. Au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis s'est dit alarmé des menaces anonymes et répétées contre les avocats du journaliste Samuel Ouazizi, qui, selon le gouvernement, a perdu sa vie en août 2019 pendant sa détention au secret. Eric Manerekiza.
Dans sa lettre aux deux avocats qui continuent de demander justice pour Samuel Ouazizi, l'ambassadeur Peter Henry Barlerin indique qu'il suit de près l'engagement du président Paul Biya d'ordonner une enquête impartiale en vue d'élucider les circonstances de la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Il souligne aussi le rôle important des avocats dans le maintien des valeurs démocratiques et la protection des droits de l'homme. Vous devriez pouvoir continuer à servir vos clients dans la paix et la sécurité, a-t-il déclaré. Le responsable politique de l'ambassade va s'entretenir avec eux pour en savoir davantage. VOA Afrique a essayé de joindre l'avocat barista Edouard Yonga Ehoulé sans succès. Depuis son arrestation en août 2019 pour avoir critiqué la gestion de la crise anglophone, Samuel Ouazizi n'a jamais été présenté devant la justice et son lieu de détention n'a jamais été révélé. Le gouvernement a confirmé le décès de Samuel Ouazizi le 17 août 2019 des suites d'une maladie. Mais cette version peine à convaincre les avocats de Ouazizi, les organisations de défense des droits des journalistes, exigent toujours que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de Samuel Ouazizi.
Trois nouveaux corps de migrants ont été repêchés la nuit dernière après le naufrage de leur bateau au large de la Tunisie, faisant monter le bilan à 55 morts. Il s'agit de 28 femmes, 25 hommes et 2 enfants, a ajouté Mourad Meshri, directeur régional de la protection civile à Sfax, dans le centre-est de la Tunisie. Une trentaine de corps ont été enterrés hier soir dans un cimetière près de Sfax, a indiqué de son côté le directeur régional de la santé Ali Ayadi.
Ces migrants, originaires d'Afrique subsaharienne pour la plupart, se trouvaient à bord d'une embarcation clandestine partie de Sfax en direction de l'Italie dans la nuit du 4 au 5 juin, selon des témoignages recueillis par les autorités. En Libye, l'ONU se dit horrifiée après des informations sur la découverte de charniers dans une région tombée la semaine dernière aux mains des forces pro-gouvernementales. Elle a appelé à des enquêtes efficaces et transparentes et appelle à sécuriser les charniers, identifier les victimes, établir les causes de décès et restituer les dépouilles aux familles. Le 5 juin, les forces loyales au gouvernement d'Union ont chassé les troupes rivales de Khalifa Haftar de Tahrouna, leur dernier fief dans l'ouest du pays pétrolier. Toujours concernant la Libye, les États-Unis soutiennent l'initiative de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu, prenant leur distance avec une proposition de trêve faite par son allié égyptien. Le Caire est l'un des principaux soutiens du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui a perdu du terrain ces dernières semaines face au gouvernement d'Union, reconnu par les Nations Unies et appuyé militairement par la Turquie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil d'État français a autorisé ce vendredi un chercheur à consulter les archives du défunt président français François Mitterrand sur le Rwanda, au cœur de la controverse sur le rôle de la France pendant le génocide de 1994. La plus haute juridiction administrative en France estime que le chercheur François Granet a un intérêt légitime à consulter ces archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d'intérêt public. En France, toujours, la police a organisé aujourd'hui une deuxième journée de protestation contre des accusations de racisme dans ses rangs. Ils accusent leur hiérarchie de ne pas les avoir soutenus contre ces accusations amplifiées par les manifestations aux États-Unis dénonçant la mort de George Floyd. Le point avec Claire Morin-Jubourg.
Plusieurs dizaines d'agents ont bloqué la circulation sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Leur banderole affichait le slogan « Pas de police, pas de paix », paraphrasant « Pas de justice, pas de paix » qui avait rythmé les manifs aux États-Unis. Hier à Lille, Marseille et d'autres grandes villes françaises, des policiers ont jeté par terre leurs menottes, leurs brassards, en appelant à la démission le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le ministre a exaspéré les forces de l'ordre cette semaine avec un engagement de tolérance zéro contre le racisme après la manifestation de 20 000 personnes devant le palais de justice de Paris le 2 juin. L'interdiction d'utiliser la technique dite d'étranglement lors des interpellations a également provoqué la colère des policiers, estimant que cette décision rend leur travail plus dangereux. Certains syndicats de police ont menacé de se mettre en service minimum car la grève est interdite au sein des forces de l'ordre en France.
C'est en Floride et non pas en Caroline du Nord que se tiendra finalement la convention républicaine. Lors de l'événement, le président Donald Trump sera officiellement nommé candidat de ce parti pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Jacques Aristide.
La présidente du comité national du Parti républicain, Rona McDaniel, a déclaré que la convention aurait lieu à Jacksonville le 27 août dans une salle d'une capacité de 15 000 places où l'actuel locataire de la Maison-Blanche prononcera un discours d'investiture. D'après Rona McDaniel, la Floride est cruciale pour la victoire. Nous avons hâte d'amener cette grande célébration et ce boom économique dans l'État, ajoute-t-elle. Le président Donald Trump a récemment élu domicile en Floride, dont le gouverneur Ron DeSantis est l'un de ses principaux alliés. L'événement était initialement prévu du 24 au 27 août à Charlotte, en Caroline du Nord. Le gouverneur démocrate Roy Cooper a jugé nécessaire d'envisager un rassemblement plus réduit avec distanciation sociale et port du masque. Le président a déploré la décision et reproché au gouverneur d'être toujours dans un état d'esprit confinement. La Floride est considérée comme décisive dans le duel qui opposera Donald Trump au démocrate Joe Biden lors du scrutin du 3 novembre prochain.
Le HCR a appelé ce vendredi la Grèce à ouvrir une enquête urgente sur les nombreux rapports de refoulement présumé des demandeurs d'asile vers la Turquie voisine. L'Union européenne a dans la foulée réagi à cet appel, émis la veille dans ce sens également par l'Organisation internationale des migrations. Le gouvernement conservateur grec au pouvoir depuis un an a durci sa politique vis-à-vis des demandeurs d'asile et renforcé les patrouilles aux frontières maritimes et terrestres. L'ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis a appelé ce vendredi à la normalisation des relations avec Israël, mais avec une condition, que l'État hébreu renonce à annexer des pans de la Cisjordanie. Dans une tribune publiée par un quotidien israélien, Youssef Al-Oitiba a assuré que le potentiel de rapprochement avec Israël pourrait disparaître si l'annexion a lieu. Israël doit dévoiler le 1er juillet sa stratégie pour le plan élaboré par l'administration américaine qui prévoit notamment l'annexion par Israël de ses colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'État hébreu depuis 1967. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Le FMI a approuvé un décaissement supplémentaire de 111,6 millions de dollars pour le Rwanda pour faire face aux effets économiques du coronavirus. Ce financement porte le soutien total du FMI au Rwanda à 220,46 millions de dollars et aidera Kigali à financer la balance des paiements et les besoins budgétaires urgents du pays. L'économie rwandaise dépend en partie des revenus du tourisme, mais le secteur s'est pratiquement arrêté pendant l'épidémie. Sous forte pression économique, le Nigeria a fini par décréter la fin des subventions au carburant, attendues de longue date par le secteur pétrolier. Il laisse aux distributeurs la liberté de déterminer les prix à la pompe. Le système des subventions siphonnait des milliards de dollars des caisses publiques. Le premier producteur de pétrole du continent n'a que 4 raffineries non fonctionnelles et doit importer la quasi-totalité du carburant consommé par ses 200 millions d'habitants. Pour terminer, la pandémie de COVID-19 risque de conduire pour la première fois en 20 ans à une hausse globale du travail des enfants, avertit l'ONU. Selon l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, le nombre d'enfants qui travaillent dans le monde a diminué de 94 millions depuis 2000.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. 40 à 50 joueurs de la NBA ont exprimé des doutes quant à reprendre la saison NBA fin juillet à Orlando, selon la télévision ESPN. Pour l'heure, aucun de ces joueurs n'a formellement exprimé sa volonté de ne pas participer au rendez-vous fixé cet été chez Disney World. Un accord établi avec le syndicat des joueurs établit que les joueurs dont les conditions de santé les exposent à un risque accru de contracter le coronavirus pourront déclarer forfait. Et ceux qui évoqueraient d'autres raisons en auront aussi le droit sans encourir de sanctions, mais ne percevront pas les salaires correspondant à leur participation au match. Parmi les préoccupations exprimées par ce groupe de joueurs hésitants, revient surtout la perspective d'être séparé de sa famille pendant des semaines, l'isolement sur le site de Disney World, les risques persistants liés à la pandémie et de se blesser après un temps de préparation trop court. La saison reprend le 31 juillet avec 22 équipes toutes rassemblées en Floride pour jouer des matchs à huis clos jusqu'au 12 octobre au plus tard. En athlétisme, les athlètes participant aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham en Angleterre seront autorisés à mettre un genou à terre pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. D'après l'annonce faite par le directeur général des Jeux, l'Américain David Gravenberg, en début de semaine, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a pour sa part déclaré que les athlètes devront rechercher des moyens de s'exprimer de manière digne lors des Jeux de Tokyo, dont la date a été reportée en 2021. Les prochains Jeux du Commonwealth se dérouleront du 28 juillet au 8 août 2022. Football, pas de match pour le Sénégalais Salif Sané contre le Bayer Leverkusen ce dimanche. Le défenseur central de Schalke 04 ne rejouera pas en Bundesliga jusqu'à la fin de la saison. Après plusieurs semaines passées à l'infirmerie, Salif Sané effectuait son retour lors de la reprise post-corona. 3 matchs plus tard, il a rechuté et son club parle de blessures musculaires. Pendant ce temps, le Bayern Munich pourrait décrocher dès la 31e journée ce samedi contre Mönchengladbach son 8e titre de champion consécutif dans son antre de l'Allianz Arena. Sans supporters et sans ses deux attaquants emblématiques, Thomas Müller et Robert Lewandowski, suspendus pour cumul de cartons, si Dortmund perd à 13h30 GMT à Düsseldorf, Les joueurs du Bayern entreront sur la pelouse à 16h30 avec la possibilité de s'adjuger le trophée du champion. En cas de victoire, si l'écart de 7 points entre Munich et Dortmund reste inchangé, le Bayern pourra toutefois être sacré dès sa prochaine victoire.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit hier Boubou Cissé au poste de premier ministre. Il doit former un nouveau gouvernement après les dernières élections législatives. Il doit constituer son équipe dans un contexte politique tendu avec les manifestations la semaine dernière pour demander la démission du président Ibeka et une situation sécuritaire qui se dégrade dans le centre du pays. Kassim Traoré a tendu son micro à quelques habitants de Bamako.
Ce matin, dans les rues de Bamako, tout comme dans l'administration, les débats ont porté sur la reconduction du Premier ministre Boubou Cissé.
Boubou Cissé n'est pas un politicien parce que Ibeka ne veut pas confier le gouvernement à un parti politique. Donc, qu'on prenne un civil neutre.
Je pense que le président n'aurait pas dû donner autant de crédibilité à Boubou. Encore une fois, il n'aurait pas dû lui donner une seconde chance vu que la première fois, il n'a pas été à la hauteur. Les élèves sont dehors, les gens se plaignent. À cause du président, il n'y a pas d'argent. Boubou, il n'a pas été à la hauteur.
Le temps qu'il a passé à la primature a été une réussite totale. Des actions ont été menées d'une part et d'autre. Mais ce à quoi les Maliens s'attendaient réellement, cet objectif n'a pas encore été atteint.
La classe politique malienne a été surprise par cette reconduction. Serigne Diawara Di Martin, président du Parti Lumière, membre de la majorité présidentielle.
C'est une bonne chose parce que Boubou, il a déjà montré de quoi il est capable. Si vous voyez que aussi le président de la République a renouvelé sa confiance sur lui, c'est parce qu'il fait son affaire et il fait l'affaire du gouvernement. Selon moi, je pense que nous devons l'accompagner en tant que parti majoritaire. Et selon nous, nous proposons à ce qu'il fait un gouvernement d'union pour que l'ensemble des Maliens puissent se retrouver dans ce regroupement pour mieux diriger le Mali.
Pour Mohamed Salia Touré de la CEMAS, ce renouvellement de confiance n'est point une surprise.
Je ne suis pas surpris parce que l'imam avait déjà prévenu. Il avait prévenu, connaissant l'état d'esprit du président, il avait dit la dernière fois au meeting qu'il sait qu'il n'écoute pas son peuple. Donc c'est une décision qui ne m'a pas du tout surpris. En tout cas, nous, de notre côté, ça ne fera que grossir les rangs des nouveaux arrivants. C'est tout simplement regrettable.
Avec la situation politique actuelle, beaucoup d'observateurs pensaient que le président allait donner une chance aux négociations. Beaucoup d'observateurs pensaient que le président de la République allait donner une chance aux négociations vu la demande de sa démission émanant du mouvement du 5 juin. Baba Dakono, chercheur.
Le mouvement du 5 juin est en train d'être rejoint par certains syndicats, dont une des centrales syndicales du pays. Donc ça veut dire qu'il sera confronté, en plus de la tension politique, à une tension sociale. Et il ne faut pas oublier que la pandémie de la COVID-19 perdure. Donc c'est vraiment un moment de défi, un moment où il aurait eu beaucoup de chance s'il venait avec un consensus.
Le Premier ministre Boubou Cissé doit former une équipe gouvernementale de 25 membres, cela conformément aux recommandations du dialogue national inclusif. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Niger, les organisations de défense de la liberté de la presse se battent pour la libération de Samira Sabou, une influente journaliste blogueuse. Elle est accusée de diffamation et a été interpellée mercredi et écrouée pour un poste sur la corruption au ministère de la Défense. Pour la maison de la presse, un journaliste accusé de diffamation ne peut être mis en détention préventive comme le stipule la loi. Bagassi Koura a recueilli la réaction d'Ibrahim Haruna, qui est le patron de la maison de la presse à Niamey.
Samira Sabou, il faut le dire, c'est une journaliste nigérienne. Dans un premier temps, elle avait travaillé au niveau du journal gouvernemental de l'ONEP qu'on appelle le Sahel, sous forme, je crois, de contrat. Et par la suite, elle avait travaillé aussi dans un autre organe, un quotidien privé qui s'appelle L'Enquêteur. Mais depuis quelques mois, elle est à son propre compte. Elle a un journal en ligne qui s'appelle Niger Search. Et aussi, aussi, c'est une blogueuse, une activiste qui intervient dans les réseaux sociaux et fait des questions socio-économiques de notre pays.
Alors, quelles sont les raisons de son interpellation?
Oui, il y a une plainte contre elle pour diffamation. Elle a publié certaines informations sur son profil Facebook. Et ceci, à travers cette publication, elle a accusé une personnalité d'être impliquée dans les dossiers du ministère de la Défense. Dossier que vous savez qui est pendant devant les juridictions et qui concerne le détournement de fonds du ministère de la Défense. Donc c'est sur ça qu'elle a été interpellée et écrouillée dans la prison, au niveau de la prison civile de Niamey.
Qu'est-ce que vous faites pour qu'elle soit libérée?
Dans un premier temps, il faut le dire qu'elle a un avocat qui est en charge de son dossier, mais aussi au niveau de notre organisation, la Maison de la Presse, on a pris contact avec les deux acteurs, la partie plaignante, mais aussi la partie accusée pour savoir le fond du dossier. Finalement, on a compris que c'est une question de diffamation et on a essayé de régler le dossier à l'amiable. Le dossier se poursuit, nos efforts se poursuivent, mais en dehors de ça aussi, hier, nous avons sorti un communiqué au niveau de la Maison de la Presse pour condamner l'interpellation de cette journaliste et demander sa libération. Du fait qu'elle a été convoquée en tant que journaliste et aussi que la loi portant régime de la liberté de la presse au Niger, c'est-à-dire que l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse, dit qu'à son article 67, en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt, ni mandat d'arrêt. Donc, clairement, la loi interdit une détention préventive en matière de diffamation.
C'était Ibrahim Harouna, le patron de la Maison de la Presse à Niamey, au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey, au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, de la décision de fermer les bars et alimentations pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus est toujours en vigueur. Les tenanciers, les gérants et les restauratrices broient du noir et ne savent plus où donner de la tête pour survivre. André Kolmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Plus de 3 mois après la fermeture de bars et alimentation, les conséquences dramatiques se font ressentir sur tous les plans. D'abord, les tenanciers de bars ne peuvent plus supporter les charges. Ils commencent à se débarrasser de leurs employés, comme en témoigne Fidèle Majitoloum, tenancier de bars.
On est obligé de suivre les instructions du gouvernement et là, on ne peut pas continuer par garder les gérants et puis les serveurs. On est obligé de les garder jusqu'à un mois plus tard. On est obligé de mettre terme à leur contrat. Sauf à laisser les gardiens. Et même avec nos bailleurs, on pas encore entendu. Qu'est-ce qu'ils vont décider pour nous?
D'autres tenanciers qui ont loué leur établissement affirment à VOA Afrique qu'ils ont été plusieurs fois harcelés par leurs créanciers.
On est menacé par le bail. Au début, moi ça va, mais 2 mois déjà, les gens ont le reste. Par rapport à ça, ils mangent. Et nous, on a fermé, c'est la décision de l'État.
Richard Corombay est le propriétaire d'un bar dans un quartier chaud de N'Djamena. En 3 mois, il dit avoir perdu énormément en termes d'économie.
Moi, quoi, j'ai fait des recettes là, hein, tous les week-ends. Il me faut 1 200 000 et 1 300 000 par jour. On pense de produire. Bon, les gens sont là et les choses ne marchent pas. Tu vois, on se prie, c'est que vient là-bas pour tourner avec. Mais tu veux dire, partir, on est carrément à terre. Si on veut relancer même là, beaucoup de bars sont fermés.
Certains serveurs qui ont loué une chambre pour dormir sont expulsés parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le loyer et d'autres changent de métier pour subvenir à leurs besoins.
J'ai quitté, ça fait déjà 1 mois de chez moi à cause de son argent. Ça a augmenté 3 mois chez moi. Là, appelé même le chef de carré, il est venu, on a fait des problèmes, c'est ça, j'ai quitté.
Moi, j'ai un bar un peu compréhensif. Depuis que les bars sont fermés, je suis venu lui expliquer mon cas. Il m'avait compris. Il a dit que quand je veux commencer à avoir de l'argent, je peux venir payer. Mais avec tout ça, je deviens enlever le sable au bord du chéri. Je vends ça comme ça. Ça me permet de trouver ma ration journalière.
La fermeture de bars et restaurants est un coup très dur pour les femmes veuves qui se prennent en charge à travers la restauration dans ces débits de boissons. Elles vendent généralement de la soupe aux clients.
Tel comme moi, Fatou Olga, là, je n'ai ni père ni mère. Je sors à 5h30, je fais le rayon le marin à la queue, coura, tout je paye.
Fatih Olga plaide pour que le gouvernement et les partenaires puissent penser aux personnes vulnérables comme les veuves.
Je n'ai pas d'autres revenus. C'est avec ça que je paye ma maison. Et là où je parle, là, je parle avec les larmes dans les yeux. Et ma maison coûte 60 000 francs. Et j'ai 2 enfants qui font l'école privée. Et moi-même, j'ai besoin d'entretien. tient. Mais depuis 3 mois là, je ne sais pas ce que je dois faire. Que le gouvernement se lève et recense certaines femmes qui sont des veuves, qui se battent par rapport à ça.
Les citoyens ont les avis partagés sur la fermeture de bar, même si c'est pour des raisons sanitaires.
Ça me pénalise en tant que consommateur.
Le week-end, par exemple, ou après une semaine de travail, on a besoin un peu de se distraire. Quand les bars sont fermés, c'est un peu compliqué.
Si tu es fermé définitivement, tu ne vois pas le mal.
À entendre les hautes autorités, la courbe de contamination à coronavirus est en baisse à Djamena. Les assoiffés de bière et autres ambianceurs attendent impatiemment le retour des jours heureux et des soirées bien imbibées. À Djamena, André Kodumadigar pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, les manifestations contre le racisme consécutives à la mort de George Floyd ont relancé le débat sur le passé esclavagiste du pays. Mais le président Donald Trump s'est dit mercredi catégoriquement opposé à l'idée de rebaptiser les bases militaires honorant d'anciens militaires sudistes, y voyant un manque de respect pour les soldats. Eric Manirakiza s'est entretenu avec Joël Vitilio, Ismaël Diallo et René Lec dans l'émission L'Amérique et vous.
Et la question de renommer des bases militaires, la question de faire tomber des statues, de remplacer des statues, ça ce sont des marqueurs symboliques. Donc il faut effectivement repenser quel message civique on envoie avec tous ces noms. Depuis quelques années, on débaptise et on abat des statues. Je pense qu'il faut aussi faire un grand accompagnement historique, c'est-à-dire qu'on ne perde pas la mémoire du racisme américain à travers l'histoire non plus. L'histoire, elle est toujours en marche, donc je pense qu'il faut changer tout ça, ne pas renforcer cet héritage raciste aujourd'hui.
Mais Obama, il a fait 8 ans, il n'a pas changé ça.
Il y a eu quand même des changements en Louisiane, il me semble. Il y a eu des renversements de statues, il y a eu des actions qui ont été locales. À Minneapolis, on a remplacé le nom de Calhoun par un nom amérindien. Donc il y a, même sur mon campus, il y a des noms de bâtiments comme Neil Hall qui vont être remplacés par des noms amérindiens puisqu'on est sur un territoire amérindien. Donc il y a eu quelques changements, mais certainement ça n'a pas été au niveau fédéral. Oui.
Et Eric, si vous permettez, ce n'est pas propre aux républicains ou à Donald Trump. Il y a une culture générale dans le pays qui soutient et qui entretient et qui permet à ce type de pratique, à cette culture raciste d'exclusion de se pérenniser. Et donc Trump, il surfe sur une vague qui existe déjà. Il n'est pas le créateur de la vague. Il faut aussi qu'on soit assez clair là-dessus. Quand même, 59% des républicains pensent que la situation actuelle des Noirs n'a rien à voir avec l'esclavage. Ça, déjà, en soi, c'est porteur d'un racisme, d'une violence assez remarquable. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas penser que parce que quelqu'un est juste un républicain ou qu'il est juste un supporter de Donald Trump, il n'est pas quelque part une victime du racisme et il n'est pas un acteur au quotidien de la reproduction de ce racisme dans la société dans laquelle nous sommes. Ce n'est malheureusement pas aussi simple que cela.
En faisant tomber des statues, des monuments, on choisit l'oubli. Est-ce qu'il faut oublier ou est-ce qu'il faut être en face de son passé tous les jours pour le comprendre? Lorsqu'en Belgique, on dit d'enlever la statue de Léopold, est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'il faudrait plutôt la garder là et mettre une très grande inscription pour dire « esclavagiste, meurtrier de tant de millions de Congolais » pour que toute personne qui passe là voit, oui, la statue, mais voit également le message attaché à cette statue. Je ne suis pas tellement pour l'oubli, je suis pour l'éducation des gens, pour qu'on sache exactement que l'histoire est là. Parce que s'il faut effacer l'histoire, mais donc il faudrait également changer tous les noms, tous les prénoms des gens aux États-Unis et même en Afrique et ailleurs. Où est-ce qu'on s'arrête dans le fait d'effacer le passé?
C'était un extrait de l'émission L'Amérique et vous ce soir à 19h05, temps universel. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Georges Léonard Sagnon, Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com.